Merci beaucoup. Et je pense que nous allons pouvoir ouvrir une discussion sur cette thématique qui nous concerne pratiquement tous, majoritairement.
Monsieur,
il y a une différence entre le fromage de chèvre et le fromage de vache.
Dans les 15%.
Le fromage de chèvre et
le
fromage de vache.
Je ne sais pas, cher monsieur. Monsieur Nicole, vous pouvez une idée.
Oui, allez-y. Globalement, il n'y a pas de. C'est pas une synode, sinon on parle beaucoup des fromages alternatifs, brebis, chèvre, vache, médecins, par rapport au lait de brebis est un peu plus gras que le lait de vache. Mais globalement, sur le produit final, ce que vous allez avoir en taux lipidique, il y a très peu de différence, qui joue beaucoup sur les fromages, ça va être la nature du fromage, à savoir est-ce que vous avez une pâte pressée dure, est-ce que vous avez une pâte molle. Là, vous allez vraiment avoir des différences importantes. En parmesan, ça va être. Autour de 34, 35 grammes de lipides au 100 grammes. Un camembert, on va plutôt être autour de 22 grammes de lipides au 100 grammes. Donc, et un fromage blanc à 40%, entre guillemets, on est seulement à peu près 6-7% de lipides. Donc, c'est plutôt la technologie, plutôt que l'origine du lait.
Pierre,
oui, comme j'ai un tout petit peu travaillé sur les fromages, de chèvre, je vous rappelle que le taux du tireux est très sensiblement inférieur chez la chèvre que chez la vache, mais en fromage, on a à peu près les mêmes proportions de matière grasse en définitive dans les fromages. Simplement, qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est que les acides gras saturés de la chèvre sont plus courts. Acide caprique, capra la chèvre en latin, caprylique, caproïque. Donc, tous ceux qui sont métabolisés rapidement sont sensiblement plus importants chez la chèvre. Deuxièmement, il y a une tendance à avoir légèrement moins d'acide palmitique. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand j'ai débuté, c'était l'acide stéarique qui était au premier rang pour être. Maintenant, c'est l'acide palmitique. Et enfin, il y a une tendance à avoir, mais légère, et ça dépend alors d'alimentation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des polyinsaturés supérieurs. Mais sur les polyinsaturés, que ce soit quel que soit le ruminant, et là on a fait des études avec nos collègues africains, quand il y a des animaux sous-alimentés, même pour par exemple des jeunes agneaux, des jeunes chevreaux, dans des zones difficiles et que la croissance est lente, on a nettement plus d'acides gras intéressants, notamment les oméga-3 et le rapport oméga-3 sur dans le sens oméga-6 sur oméga-3. Eh bien, il est nettement plus faible, et même on a trouvé des acides linoléiques conjugués plutôt favorables. Alors ça, c'est peut-être pour... on ne va pas rentrer dans le détail de ces acides-là, mais voilà. Donc, c'est surtout le mode de vie, je ne dis même pas le mode alimentaire, qui fait l'importance dans un fromage. Or, nous... malheureusement, maintenant, les vaches sont élevées de manière intensive et relativement de manière importante, et c'est pas très favorable au niveau diététique globalement. Voilà. Si elles produisaient que 5 litres de lait par rapport à 50 litres maintenant, vous voyez, nos fromages seraient diététiquement plus intéressants. Voilà.
Merci. Autre intervention ? Oui, monsieur.
Moi, j'ai une question à poser parce que j'avais entendu dire que le gras, il fixait des toxines. Et que quelque part, quelqu'un qui faisait des fois un régime un peu trop strict, il s'empoisonnait parce que ça libérait toutes les toxines. Ben, je ne sais pas si c'est vrai.
Alors, c'est partiellement vrai. Effectivement, le disque du feu va fixer toutes les cochonneries hydrophiles. C'est-à-dire, beaucoup de produits, notamment les perturbateurs endocriniens, par exemple, la toxine. Disons qu'un poids positif, et effectivement, quand il y a une perte de poids, il y a une certaine libération de ces produits toxiques. Et certains ont fait le lien d'ailleurs avec l'aggravation des lésions du foie, comme c'est en métabolique, en corrélation avec cette libération. Maintenant, on peut dire aussi que ça peut avoir un effet favorable dans la mesure où on va les fixer dans le tissu du queue, ils n'iront pas ailleurs. Quand on maigrit, on peut se poser la question. Mais quand on fait des études, il y a des groupes français qui ont beaucoup travaillé sur la question et qui ont des résultats extrêmement intéressants. Oui ?
Madame.
Quand on n'a pas beaucoup de tissu gras, les toxines, elles vont se loger où ?
Elles vont certainement dans le tissu cible. Bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est un peu une image à double sens. Ça peut être favorable de les stocker. Mais effectivement, il faut que ça reste à l'endroit. Elles vont dans le foie, par exemple. Hein, elles vont dans toutes les cellules organiques.
Une question. Oui, Olivier Fanica.
On a parlé surtout du gras, mais est-ce qu'on peut parler aussi des produits de dégradation du gras lors du processus de cuisson ? Vous pensez à la troléine qui est en céréales et d'autres substances qui interviennent dans la consommation des produits carnés. Voilà. Qu'en dire ?
Oui, alors moi c'est pas mon domaine de spécialité, mais c'est évident qu'une bonne partie de l'effet délétère autour des. En tout cas en ce qui concerne le cancer, passe par les effets de la cuisson, du chauffage à haute température et la transformation d'un certain nombre de composés. Bien sûr, et ce n'était pas du tout la teneur en ceci ou en cela de la viande qui est en question, du produit carné qui est en question. Ça peut être aussi les produits utilisés pour l'élaboration du produit, par exemple la salaison et compagnie. Hein. Et donc il y a certainement beaucoup à faire, parce que quand on voit l'épidémie de barbecue tous les étés, on fabrique certainement des hydrocarbures polycycliques à forte dose, c'est probablement beaucoup plus dangereux, c'est-à-dire c'est étudié, hein. C'était, pour le cancer de l'estomac c'était bien connu. Hein. Donc il y a certainement des messages sur la façon dont on traite l'aliment, bien sûr, qui sont tout aussi importants que la teneur en gras de l'aliment. En fait. Moi, ce n'est pas vraiment mon champ d'investigation, donc je ne suis pas très compétent dans le domaine.
Je
peux
juste ajouter éventuellement quelque chose
bien sûr.
Sur ce phénomène, les acides-là ont pas avoir le même comportement en fonction de leur aliment. Et ça crée, on a vu qu'il est certain qu'elle n'est pas bon, entre guillemets, au niveau de santé. Par contre, l'avantage qu'ils ont, c'est que par rapport à la cuisson, c'est extrêmement stable. Alors que forcément, plus vous avez de la saturation, plus votre acide gras devient sensible. Et donc, on a parlé notamment des oméga 3 qui sont intéressants pour la santé, mais par contre, ils sont extrêmement fragiles à la cuisson. Et là, on arrive à faire des dérivés. Donc, on a des produits de cyclisation, des produits de polymérisation, ce qu'on appelle des espèces chimiques nouvelles, lors des cuissons ou des fritures. Là, en effet, c'est ce que dit le professeur Ziegler, il peut y avoir des produits qui, par rapport à la santé, peuvent avoir une certaine toxicité. Alors, il y a des huiles, l'huile de colza par exemple, c'est des huiles qu'il faut chauffer très, très fortement. D'ailleurs, si vous chauffez l'huile de colza très fortement, vous allez rendre compte que vous pouvez dans la caisse de l'odeur de poisson. Ça, c'est des algues qui sont formées par des compositions. Mais évidemment, ce n'est pas des huiles que vous allez utiliser pour la friture non plus, mais de nombreuses fois. Bon, il faut quand même avoir des espèces chimiques nouvelles qui pourraient avoir des dangers pour la santé. Il faut quand même avoir des taux à 240 degrés pendant quand même 10 heures ou 12 heures. Donc,
il ne
faut pas
non plus
qu'on s'affole de trop par rapport à la cuisson normale.
Jacques
Cabret. Je reviens sur la médecine personnalisée et la dystrophie. Est-ce que c'est le conseil est personnalisé en diététique par rapport à ces. Est-ce que c'est passé dans la pratique ou est-ce que c'est un désir ?
Ah,
un souhait.
C'est forcément un désir.
Le désir se satisfait.
Oui. Alors, nous, on n'en est pas là du tout. On est dans une société normative. Pour tout. Et donc, quelqu'un qui est en pleine santé, qui n'a pas de lipodystrophie, qui est sportif, il peut manger 150 grammes de gras par jour. Il n'y aura pas de problème. Puisqu'il va oxyder ses acides gras, il va en faire de l'énergie, et donc il ne va pas les stocker. Quelqu'un qui n'a pas cette forme de lipodystrophie, il y a du tissu qui peut là où il faut, enfin, tant qu'il n'y a pas de complications mécaniques qui se très bien, on n'a pas donné de normes. Autrement dit, la norme c'est bon pour une population, mais au niveau individuel c'est assez dangereux. D'autre part, les normes changent. Hein, c'est, effectivement, quand on considère les acides gras, il n'y a pas si longtemps, on accusait beaucoup l'acide myristique du beurre d'être extrêmement dangereux vis-à-vis du cholestérol. Ben, c'est pas vrai. Il y a des études qui ont montré l'inverse. Si on prend l'acide gras stéarique, hein, qui est donc un digitin, il est innocenté aussi vis-à-vis de l'augmentation du cholestérol. Ça tombe bien parce que c'est l'acide gras du chocolat, hein, du cacao. Donc, c'est très bien. Donc, on a des changements de mode qui tiennent aux découvertes scientifiques du moment. Hein. Par exemple, l'acide gras -6, tournesol, soja, colza, etc. C'était très à la mode dans les années 80. Et ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait un rapport de carence, de 20 à 40 dans l'alimentation, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup, beaucoup trop d'N-6 par rapport à N-3. Maintenant, on a tendance à dynamiter les N-6 et à faire monter les N-3, mais ça ne devra peut-être pas éternellement non plus. Comme le disait M. Nico, effectivement, si on en met trop et qu'on chauffe toutes ces huiles, on en fait des acides gras trans, on en fait des dérivés machin, un truc mûche, qui sont probablement très dangereux. Donc, c'est pas si simple que ça. Donc, il y a quand même des limites à la manipulation d'un simple point de vue scientifique. Il faut rester quand même assez prudent. C'est pas la peine de donner de la graine de lin à tout le monde pour faire monter les N-3. Je parle des vaches. Hein. Pour faire monter les N-3, c'est peut-être pas nécessaire de trouver des N-3 dans la viande. Si on consomme une petite quantité, moi je vois pas tellement de problèmes vis-à-vis des N-6 et N-3 avec la viande. Bon, c'est pas idéal, peut-être plus un peu trop d'acide arachidonique, mais c'est pas dramatique non plus. Quand on pense à toutes les cochonneries qu'on mange à côté, vous voyez, c'est ça le message. Hein, donc, c'est peut-être, moi je pense, c'est au niveau sociologique, et je vous écoutais en finale simplement, je crois que c'est. Il faut travailler sur la pensée magique des consommateurs. Or, les consommateurs, ils ont des croyances, et c'est ça qui les fait choisir. Hein. On ne choisit pas en fonction de ses connaissances, des conditions, on choisit en fonction de ses croyances. Et actuellement, les gens ils croient que le gluten c'est très dangereux, ils croient qu'on les empoisonne, hein. Ils sont perdus parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils mangent. Hein. Ils mangent des objets comestibles non identifiés. Hein. C'est Fischler qui a dit ça. Hein. Et c'est toujours le principe de la corporation, on est ce que l'on mange. Donc quand on sait plus ce qu'on mange, on est forcément complètement perdu. Donc il y a vraiment à travailler là-dessus, il faut le faire avec les sociologues, parce que il y a effectivement beaucoup de d'erreurs à démonter, notamment vis-à-vis de la viande. Et je crois que l'image du sarcophage et du zoophage, moi je la trouve très forte, parce que le mangeur moderne, c'est quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il mange. Alors, est-ce qu'il voudrait le savoir? C'est pas sûr. Parce qu'il culpabilise, vu qu'on lui a dit que le bien-être animal, etc., etc. Donc, il ne sait plus, et donc, il est mal perdu. Donc, il y a certainement beaucoup à faire pour réconcilier le mangeur moderne avec son terroir, ses racines, etc.
Il y a un problème de fond aussi là-dessus, beaucoup plus général, qui est celui de la difficulté de plus en plus grande de la science au sens large à passer dans l'opinion publique.
Ouais.
Les gens se réfugient dans les élites. C'est un thème dont on avait un certain temps. C'est tellement plus rassurant. Alors, Pierre Laurent Ferre, vous voulez intervenir.
Juste pour abonder dans votre sens, je crois que la recherche japonaise a trouvé, maintenant je crois qu'ils en sont à plus de 4000 flaveurs d'origine, c'est ce qu'ils disent, gastronomique, c'est-à-dire rien que pour notre choucroute à nous avec les Allemands, je crois qu'il y a 19 flaveurs différentes, ce qui veut dire que peut-être à l'avenir, en tout cas, on peut se poser la question que même si on va dans un restaurant gastronomique, si vous voulez, on sera peut-être plus que ce qu'on mange, vous voyez. Alors donc, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, cette affaire-là. Hein, on est en pleine évolution.
Bon, alors... ma fille travaille dans une entreprise qui fait des arômes.
Oui, voilà.
C'est effrayant.
C'est une chimie qui se développe.
Tu mets tous les arômes dans tout son goût.
Absolument.
Hein, et donc... On devient complètement sarcophage.
Voilà. Juste une question très courte pour aussi reprendre ce que vous venez de dire sur la relativité un petit peu des fois des modes, etc. J'ai lu, et puis quand on voit un peu la biblio, on a une impression des fois que toutes ces enquêtes ou les résultats des enquêtes, quand c'est sur les produits Toto, huile d'olive, etc. Ou quand on a travaillé sur les acides gras séparés, on a des résultats différents et sinon très différents. Alors, je voudrais l'explication du spécialiste, là, quel est son point de vue, et est-ce que ce n'est pas encore une façon de relativiser, quoi je veux dire, ça ne nous oblige pas encore à relativiser encore plus, c'est-à-dire que la vérité d'aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr qu'elle sera celle de demain, hein?
Oui, ben, on va vers un degré de complexité. Maintenant, on fait de la métabolomique, c'est-à-dire qu'on va doser par spectrum et de masse. Des milliers de composants dont on ne sait même pas d'où ils viennent et à quoi ils servent. Et on trouve des profils très différents. Donc, on s'aperçoit qu'on n'a pas réglé les grandes questions. Effectivement, là je parle glucides liquides, j'aurais pu aller beaucoup plus loin en prenant les types d'acides gras, mais je vous aurais peut-être cassé les pieds, parce que ça devient très compliqué. Et on s'aperçoit qu'il y a très peu d'études dans lesquelles on a ces différents éléments plus précis, et on conclut toujours avec des études assez approximatives. Et donc, le degré de certitude n'est pas énorme. Dans bien des domaines. Pour le glucidique, on en est toujours qu'au poids.
Mais alors, vous qui êtes un homme du terrain, dans le fond, est-ce que ce n'est pas vos données venant du terrain qui peuvent se confronter avec les résultats purement scientifiques et d'en faire un peu sa vérité, quoi.
Si vous êtes en train de venir, c'est ce qu'on appelle les big data.
Oui.
C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez des enquêtes avec 50 paramètres, maintenant, il y en a 500. Il y en a tellement que vous n'arrivez plus à traiter l'information.
Il faut une méta-analyse.
Oui, enfin, c'est de l'intelligence artificielle. On a vraiment de mal à analyser. Oui. Si on voulait analyser un acide gras dans l'immensité des données qui sont reliées à l'individu, ça ne poserait peut-être pas grand-chose. Il n'empêche qu'on peut tout de même, avoir des certitudes sur un certain nombre de points.
Bien sûr.
Mais. Et le message d'aujourd'hui, c'est que les acides gras, même saturés, ne sont peut-être pas dangereux pour quelqu'un qui n'a pas de problème.
Mais parce que ce n'est pas le quantitatif, et on oublie toujours, on dit toujours le qualitatif, alors que raisonner d'abord sur le quantitatif et ensuite sur la nature et la composition.
Bien sûr.
Non, c'est...
Bien sûr, alors, ça va dépendre de l'impact biologique de tel ou tel élément. Il y en a qui ont des gros impacts, mais la plupart des éléments ont des petits impacts. Et ce sont une somme de petits impacts.
Il y a plusieurs questions, monsieur Moore, en fait.
Oui, mais est-ce que finalement, pour sortir un peu malheureusement du domaine scientifique, exclure notre gros problème, notre grosse difficulté, c'est effectivement un problème scientifique d'analyse et de conclusion de l'analyse, et ensuite un problème de communication avec la presse, ceux qui sont censés informer le public. On est de plus devant un problème, finalement, en conclusion, de communication que purement scientifique, c'est ça la difficulté.
Alors, M. Clarentino,
je voulais juste
relier
avec la question de Claude. On est en milieu neutre aujourd'hui ici entre nous. Quel est justement le message principal à faire passer aux consommateurs via les médias ou via les producteurs et autres en matière de gras, etc., consommation de gras, si vous avez vous idée à faire passer soit aux professionnels, soit aux consommateurs prioritaires. Parce que les organismes professionnels que nous représentons un petit peu sont souvent pris par des priorités un peu politiques, mais vous, en tant que scientifique ou autre, et je reviens à ce que vous m'avez la question, comment faire passer les messages et lesquels en priorité?
D'abord, chacun a son propre bilan, sa propre trajectoire. Donc certains peuvent consommer beaucoup de gras, qui n'ont pas de problème métabolique, parce qu'ils en ont besoin, et d'autres beaucoup moins. Deuxièmement, le poids, la graisse, des lipides des produits carnés, va varier considérablement en fonction du type de produit, mais par exemple, une boucherie, c'est peu de choses. Et puis, les gros consommateurs, c'est 29%. C'est quand même pas grand-chose. Et les gros consommateurs, c'est peut-être pas la viande qui leur coûte cher en termes de lipides, c'est tout le reste. C'est les sauces, c'est les frites, c'est le fromage, etc. Donc, on est plus à cibler des typologies de consommateurs que des aliments coupables. Et donc, nous, les nutritionnistes, on a depuis bien longtemps arrêté d'accuser tel ou tel aliment.
Oui, c'est la ration qui doit être jugée, c'est pas l'aliment qui compose.
Voilà, c'est la typologie, c'est-à-dire c'est l'ensemble. C'est l'ensemble à la fois des aliments, de la façon de manger et de la façon de vivre.
Un aliment peut être bon dans un cas, c'est évident.
Alors, il faut quand même garder des principes, c'est-à-dire que, effectivement, quand vous mangez comme de la charcuterie, vous pouvez avoir un apport de lipides multiplié par 6 ou 7. Si vous prenez, je ne sais pas moi, une assiette de charcuterie avec 8 ou 9 saucissons, par rapport, tranche de saucisson par rapport à du jambon, ben vous aurez 6 ou 7 fois plus de lipides. Mais si c'est une fois par semaine ou par mois, ce n'est pas grave, si on mange avec plaisir. si c'est frit, poisson pané tous les jours, c'est pareil, ça fait beaucoup de lipides, ça fait un verre d'huile en plus par rapport à une assiette de féculents avec du poisson ou de la viande mère. Donc c'est un ensemble.
Par rapport au message, évidemment, si je peux rajouter aussi quelque chose, on a beaucoup parlé de lipides aujourd'hui, c'est normal que c'est des thèmes. Mais c'est vrai également, donc, je pense que moi je préfère que le poisson sensible, il faut aussi varier. On a parlé de devoir s'interdire des choses, il n'y a pas de bons et de mauvais aliments. Enfin, je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument arriver à se dire. Et en même temps, il faut varier, ce qui permettra de on va dire, diminuer les risques, ou en tout cas éviter, voilà, éviter la casse. Ce dont on n'a pas parlé par contre aussi, c'est les protéines. Bon, la viande, ce que vous avez montré, ça apporte également beaucoup de protéines. Il faut aussi savoir que chez le consommateur, un des messages qui ne passe pas, c'est qu'on consomme trop de protéines. Les études INCa, etc., les études qui ont été réalisées, montrent que, alors qu'on devrait peut-être être autour de, allez, on va dire en gros, sur des moyennes, hein, on pourrait être entre 10 et 12% de la protéine énergétique totale apportée par les protéines, on est chez les enfants à 16% et on est chez les adultes à 17%. Donc là, on va dire est-ce qu'il y a un danger. Bon, a priori, les experts disent que tant qu'on n'est pas au-delà de 2,2 g de protéines par kilogramme de poisson prené par jour, il n'y a pas de danger particulier. Après, par contre, c'est un coût environnemental et c'est un coût écologique par rapport à la production de protéines. Donc, une solution ici, c'est de se dire que, c'est sûr que ici, vous n'êtes pas, pour ne pas mal prendre les choses que je dis, il faut peut-être limiter la consommation de viande pour ne pas dépasser les besoins qu'on a, tout en favorisant ce qu'on a beaucoup dit aujourd'hui, la qualité, bien évidemment. Donc, quitte à ce que le consommateur, ça nous coûte un peu plus cher à l'achat, par rapport à ce qu'on a entendu, par rapport à l'OP qui a été faite, ça peut coûter plus cher à l'achat, mais par contre, comme la quantité peut être consommée moins, finalement, le consommateur, lui, sur son budget, ça ne lui revient pas plus cher. Et de l'autre côté, la filière n'est pas forcément perdante non plus dans le domaine. Mais là, après, pour faire ce type de message, ça devient beaucoup plus compliqué.
Enfin, la vie règle de l'usage de tout modérément semble quand même faire de bon sens. Alors, il y a eu Georges Cantino d'abord.
Non, ça vient un peu comme une situation, parce que j'ai l'impression qu'on parle vraiment du contemporain occidental et qu'on ne s'est pas donné une profondeur anthropologique. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur une comparaison des cultures alimentaires différentes sur la planète? Parce que je pense que ce qu'on pourrait tirer profit de regarder comment on mange d'autres cultures comme le Japon, l'Inde, la Chine, l'Afrique équatoriale, etc., par rapport à nos pratiques pour essayer de comprendre par comparaison les mécanismes. C'est cette dimension qui m'intéresse, ça ouvre le champ un peu. Et deuxièmement, on n'a pas assez parlé de la dimension sociologique de l'affaire, parce que quelques mots sur le fromage m'ont fait remonter à l'esprit qu'au fond, tout comme le vin dans son histoire a vu son taux d'alcool grimper très rapidement, les fromages ont vu leur taux de matière grasse grimper rapidement. On sait très bien que la grande majorité des gens qui mangeaient du fromage à Paris avant la guerre de 14 mangeaient un fromage maigre. Hein, et qu'il y avait les riches qui stimulaient du gras ou du double crème, les autres qui mangeaient maigre. Hein. On parlait à midi de ce fameux fromage à la pie qu'on faisait en brie, qui était un fromage blanc maigre, qui était comme dans un moule à tarte, dont le peuple avait aussi mangé un morceau. Et puis l'ouvrier. Couturier en chambre, il y a eu des enquêtes médicales sur le peuple ouvrier parisien avant la guerre de 14 qui sont très instructives là-dessus. Une femme ouvrière en chambre en couture, elle mangeait jamais de viande, elle s'achetait une barre de brie maigre qu'on appelait un côtelette de l'ouvrier et elle mangeait moins parce qu'elle avait des matières grasses. Il y a ces évolutions-là très profondes, je parlais tout à l'heure parallèle à l'alcool, je fais un parallèle entre l'augmentation du taux d'alcool dans les vins et puis l'augmentation de la matière grasse dans les fromages, on pourrait peut-être multiplier les choses de cette façon-là. Ça, c'est cette dimension sociologique qui me paraît intéressante. Et c'est quand même frappant de voir que maintenant, ce sont les riches qui sont maigres et qui consomment des glucides, et les pauvres qui sont gros et qui mangent le corps animal. Alors, on pourrait peut-être interroger ces inversions-là. Cette dimension sociologique sur notre territoire et donner une profondeur anthropologique par une comparaison de la culture pour nous apporter des éclairages. Et peut-être nous donner aussi des pistes pour une communication ou une pédagogie. Voilà.
Alors, oui, vous avez raison, hein, sur tous les points, quasiment. Il n'y a pas de culture alimentaire universelle. On mange de manière extrêmement différente. Par exemple, nous, on est sûr qu'il faut 3 repas par jour. Et quand on discute avec Jean-Pierre Poulain, qui est un ami, qui est sociologue, qui a beaucoup écrit là-dessus, il vous dit qu'il y a des cultures où il n'y a pas de repas. On mange quand on peut. Mais c'est du riz. Par exemple, on grignote du riz toute la journée. Je ne sais plus si c'est en Malaisie ou ailleurs. Les Esquimaux, hein, ils ne mangent pas de glucides. Il n'y a pas de blé sur la banquise. Les Maasai, ils ne mangent pas de blé non plus. Ils se nourrissent de sang ou de blé. Et donc, nous, on dit 50% de glucides. Donc, on voit bien que nos messages, ils sont très orientés par la culture, parce que ben, c'est pas faux ce qu'on dit, mais il y en a qui font différemment. Et donc, effectivement, le poids du socio-économique, du culturel, est absolument majeur. C'est pour ça que qui travaille sur l'obésité, je pense que les choix de nos contemporains ne sont absolument pas libres. En fait, ils sont sujets aux influences de la société. Maintenant, on a perdu une tradition. On est dans le monde, dans la mondialisation, c'est-à-dire qu'on fait un peu comme tout le monde, on mange vite, on mange des produits qui sont industrialisés, et on sait qu'il est moins cher de faire du gras et du sucré que de faire du qualitatif, que de faire des produits qui sont mieux équilibrés, et donc les classes sociales défavorisées achètent des produits moins chers, qui sont aussi les plus denses en énergie. Hein. Ça a été magnifiquement étudié, tous les produits qui sont intéressants sur le plan nutritionnel sont plus chers. La densité nutritionnelle des aliments est proportionnelle au prix. Hein, plus c'est bon pour la santé, plus c'est cher. Donc il n'est pas du tout étonnant que l'obésité explose dans les classes sociales défavorisées, c'est un facteur de 2 à 3 quand même. Hein. L'obésité s'est stabilisée chez les riches, elle augmente chez les pauvres. Et donc, cette mondialisation, ben, on l'observe tous les jours dans les pays industrialisés où on voit bondir l'obésité et on voit bondir le diabète. Hein, et d'ailleurs, dans le top 10 du diabète, c'est la Chine et l'Inde qui sont en tête. Non pas parce qu'ils ont une prévalence élevée de diabète, mais c'est qui ? Il y en a, ça commence à monter, ils sont très nombreux. Et donc, il y a un effet de mondialisation au mauvais sens du terme, où les effets d'urbanisation et l'industrialisation du mode de vie s'étendent à tous les pays. Alors là, moi la réponse, c'est effectivement, restons zoophages, gardons nos traditions, apprenons à nos enfants ce que c'est que la bonne chère traditionnelle, alors c'est pas un message de grand-papa, hein, apprenez à ce que c'est qu'un animal, apprenez à ce que c'est qu'un morceau à découper, apprenez à faire la cuisine, et ça revient à la cuisine, hein. on peut être entièrement positif. On n'a jamais autant regardé des émissions culinaires que maintenant. Donc, ça revient, mais on est très très influencé effectivement par des facteurs culturels dont on n'a pas conscience. Oui.
La question qu'on peut se poser, c'est comparaison interculturelle, c'est de savoir est-ce que les corps humains sont les mêmes ? Est-ce que le corps ne s'est pas façonné en fonction de la population ? Est-ce que par exemple les microbiotes ne sont pas différents qui pourraient expliquer comment, avec des régimes différents, ça fonctionne quand même ? Parce que ça, c'est une vraie question de fond qu'il faudrait vous aiguiller
L'organisme est extrêmement plastique. Alors, c'est une question qui est difficile. Par exemple, on sait que les Asiatiques ou les Hispaniques, pour un même poids, ils sont plus gras que nous. Les Noirs, ils sont un petit peu moins gras et ils sont beaucoup plus sensibles à l'action de l'insuline. Donc, il y a des faits biologiques marquants entre les ethnies qui sont en partie d'origine génétique, mais pas certainement seulement. Hein? Donc, nos normes ne sont pas les mêmes. Probablement qu'un diabétique indien, il a intérêt à faire beaucoup plus attention à ce que je viens de vous dire, et ces différences de phénotypes, comme on dit nous, apparaissent très très tôt dans la vie. Hein, on les voit déjà chez les enfants, dans les familles qui deviendront diabétiques en Inde, par exemple. Ils ont plus de graisse. Ils sont sous-nourris, mais ils ont plus de graisse sur le tronc qu'au niveau des membres, tout jeunes. Hein, donc il y a un déterminisme, et la malnutrition fœtale, toute cette programmation infantile, elle est très liée au mode de vie et au problème de dénutrition. Donc il y a une programmation biologique qui commence et qui est liée aussi à effectivement la niche écologique dans laquelle les gens vivent. Donc c'est compliqué. Hein, c'est pas simplement génétique, ça peut être épigénétique. Et puis ensuite, les gens vont s'adapter à leur environnement et plutôt dans le bon sens. Hein, les Maasai, ben, ils font de la néoglycogénèse, je suppose, parce qu'ils ne mangent pas de glucides. Donc leur cerveau, il a besoin de glucides, tout corps cétonique, mais ils fonctionnent très bien. Donc on s'adapte, on a une grande capacité d'adaptation. Mais ensuite, on peut avoir aussi des effets délétères. Hein. Par exemple, c'est la théorie du génotype économe. On a, au cours des siècles, certainement sélectionné les gens qui étaient capables de stocker. Tous ceux qui n'étaient pas capables de stocker en période d'abondance, ben, ils sont morts. Et donc, les descendants des gens qui ont survécu, ben, ils peuvent stocker en cas d'abondance. Et donc, ben, c'est pour ça que, aux États-Unis, maintenant, la majorité des gens sont sur fond d'obèses. La grande majorité des gens, et si ça continue, ils seront tous en surpoids ou obèses.
Ouf, vous avez parlé tout à l'heure d'ethnie, donc on n'aura pas envie effectivement.
Vous souhaitez intervenir, non ? Vous l'oubliez, oui, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous, puis bonjour à tous, parce que oui, pour être arrivé en retard. En fait, je vous remercie d'abord en fait, de l'attention portée en fait, au sujet de l'alimentation et à éclairer le choix du consommateur. Donc, on partage cet idéal.
Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ?
Donc, Rudy Patel.
Vous voulez vous parler en votre nom ou au nom de l'établissement ?
Donc, alors, en fait, on partage cet idéal et on souhaite une meilleure information pour les consommateurs, aussi donc pour les associations et les collectifs que vous représentez. Donc, c'est pourquoi, en fait, on met à votre disposition en fait, une étude sur l'élevage et le climat. Donc voici, on mettra à disposition là ici, donc d'octobre 2015, donc assez récent. Et du coup, en fait, c'est à 2 semaines du début de la COP21. Donc nous souhaitions partager avec vous cet avis et proposer cet élargissement de la question en fait posée aujourd'hui. Donc vous pourrez récupérer aussi ces documents sur Internet, on n'en a pas fait suffisamment. Et aisément sur les sites des cahiers antispécistes et sur le site www. .végétarisme.fr. Je vous souhaite une bonne lecture et de faire bon usage de cette connaissance.
Bon, ben merci de votre témoignage. Olivier Fabica, vous souhaitez encore intervenir ou on arrête ?
Une petite question. Alors, oui, je voudrais simplement vous rappeler que depuis le siècle dernier, pour reprendre les comparaisons de Georges Carantino, l'espérance de vie en France ne fait qu'augmenter. Donc ça veut dire qu'on ne se nourrit pas si mal que ça. Quel que soit les taux de cholestérol, l'oméga 3, l'oméga 6 et autres, les huiles et les matières de ration.
Merci. Eh bien écoutez, je vais renouveler nos remerciements profonds au professeur Zibert. Hein, la discussion qui a suivi son intervention démontre l'intérêt de la qualité de celle-ci. Alors on a prévu de terminer rapidement pour une petite table ronde.
Je pense qu'il faut terminer rapidement.
Alors c'est vous qui avez donné les micros là.
Bon. Mais attendez, je de monsieur me fait remarque avant de dire là. Est-ce que ça a même pas.
Une réponse de M. Zibert.
De la part de nos scientifiques, qu'est-ce que vous en pensez effectivement de manière similaire, c'est-à-dire les raisons de l'augmentation du temps de vie, qu'est-ce que vous proposez à
vous avez dire la matière. Vous avez absolument raison sur ce point. Le consommateur a l'impression qu'on raisonne que l'augmentation du ciel est un peu dangereuse. C'est effectivement au niveau des masses absolument l'inverse, puisque les grandes catastrophes. Si le choix de manger, ça s'intéresse moins et moins, effectivement, l'espérance de vie a beaucoup augmenté. Alors, cette avis, c'est l'obésité est en train de gommer aux États-Unis, il y a un effet sur l'espérance de vie qui fait que vous avez 33% de la part des Américains qui sont obèses. Donc, ça va peut-être gommer l'espérance de vie, mais c'est pas encore si évident que ça. Ça va dépendre du quotidien. Et ce qui a fait repousser l'espérance de vie, c'est aussi le choix des maladies qui plus beaucoup, c'est-à-dire l'infarctus. Du cancer. Enfin, maintenant, on voit toujours plus de cancer. On va peut-être par cancer au moins parce que les gens ont plus longtemps. Les maladies du vieillissement. Absolument. Mais la tendance progresse parce qu'effectivement, les gens vont plus tôt, ils n'avaient pas le temps de faire la dernière.
Donc, allez dire ça aux gens. Ils ne voient que l'aspect cancer, ils ne voient pas l'aspect disparition des autres maladies qui ont un développement lent, et puis plus ça va aller, plus on verra ces maladies à développement lent comme cause de mortalité.
Absolument.
Je ne suis pas hésitant.
Celui dont vous voulez ajouter quelque chose, non ?
Ce que l'on regarde, ce que l'on voit également, il y a aussi dans ce phénomène d'augmentation de l'espérance de vie, études sociales, des grands progrès de la médecine. Ils ont réussi aussi, voilà. C'est ça que les gens font. Je vais dire que le fait que la médecine ait progressé et qu'on connaît de plus en plus de connaissances sur la prévention, il faut jouer maintenant de plus en plus sur la prévention, parce que économiquement parlant, c'est quand même beaucoup plus rentable, sachant que la pathologie, ça coûte beaucoup plus cher que si on arrive à la prévention. Sauf qu'on est encore plus dans un domaine où on est encore beaucoup dans le traitement des pathologies et on a plus de mal à s'imposer quand on veut aller vers la prévention des pathologies. Parce que voilà, c'est moins tangible.
Alors, Roland Jussiau, justement, en vas-y.
Pardon sur cette espérance de vie dont il est question, qui est une espérance moyenne de vie. Et je crois que si on compare avec le siècle précédent, il faudrait qu'on voit la dispersion de l'espérance de vie. Et en particulier, le poids de la mentalité infantile dans le faible niveau de l'espérance de vie dans le siècle passé. Donc, il plombait littéralement la moyenne.
En comptant au siècle dernier, la mentalité infantile, en 1900, la mentalité infantile était quand même de 1%.
Elle est sans commune mesure.
Et maintenant, elle est 0,2%. D'accord.
Mais ce que je veux dire par là, simplement, moyenne en soi, de 700, elle n'est pas accompagnée d'un paramètre de dispersion.
Merci pour vos remarques.